Les affinités électives, deuxième partie, chapitre 1. Nous voyons souvent dans la vie ordinaire ce que dans l'épopée nous appelons un artifice de poète. Les figures principales s'éloignent, se voilent ou restent dans l'inaction afin de laisser à celles que l'on avait à peine remarquées jusque-là le temps et la place d'agir et de mériter à leur tour la louange ou le blâme. C'est ainsi qu'immédiatement après le départ du capitaine et du baron, l'architecte se fit remarquer par sa sage activité dans les affaires et par son empressement à distraire les dames pendant les heures de loisir. Son extérieur seul aurait suffi pour inspirer un bienveillant intérêt. Jeune, svelte, grand et bien fait, il était modeste sans timidité et prévenant sans jamais importuner. Toujours prêt à se rendre utile et agréable, il ne tarda pas à étendre sa bienfaisante influence jusque sur les affaires domestiques. Lui seul recevait les visites désagréables ou importunes, et lorsqu'il ne pouvait entièrement les épargner aux dames, il savait prendre pour lui ce qu'elles avaient de plus fâcheux. Un jour, sa complaisance à cet égard fut mise à une cruelle épreuve par un jeune avocat qu'un gentilhomme du voisinage avait envoyé au château pour traiter une affaire qui, sans être importante par elle-même, occupait Charlotte très désagréablement. Ce dernier motif nous oblige de la rapporter avec tous ses détails. L'on n'a pas oublié sans doute les changements que Charlotte avait fait exécuter dans le cimetière du village. Les croix et les monuments avaient été rangés contre la muraille du fond et le socle de l'église. Le reste du terrain, nivelé et semé de trèfles, formait une riante prairie traversée par une seule route qui conduisait de la porte du cimetière à celle de l'église. Les nouveaux tombeaux étaient creusés au fond près du mur et sans former de tertre. Charlotte avait même ordonné de semer sur la terre nouvellement remuée du trèfle et de l'herbe afin de cacher autant que possible l'image de la mort aux yeux des vivants. Le vieux pasteur, attaché aux anciennes routines, avait d'abord blâmé cette mesure. Mais lorsque le soir, semblable à Philémon, il venait s'asseoir avec sa baucisse sur les tilleuls qui ornaient l'entrée du presbytère, il comprit qu'il était plus agréable d'avoir en face de lui une belle prairie dont l'herbe servait à la nourriture de ses vaches qu'un champ de mort hérissé de tertres et d'insignes lugubres. Quelques habitants du village continuaient cependant à blâmer une réforme qui leur enlevait la consolation de voir la place où l'on avait enterré leur père. Les croix et les monuments rangés avec ordre leur disaient toujours les noms des personnes qu'ils avaient perdues et la date de leur mort. Mais ces noms et ces dates les intéressaient beaucoup moins que la place où reposaient leurs restes. Telle était aussi l'opinion du gentilhomme qui protestait contre les réformes de Charlotte, car il avait dans ce cimetière une place réservée pour sa famille, privilège en échange duquel il avait assez généreusement doté l'église. L'avocat, chargé de faire valoir ses droits, les exposa avec chaleur, mais avec convenance. Charlotte l'écouta avec attention. « Je suis persuadée, madame, lui dit-il enfin, que vous êtes maintenant convaincue vous-même que l'homme, dans toutes les positions sociales, éprouve le besoin de connaître la place où dorment les siens. Le campagnard le plus pauvre veut pouvoir planter une croix de bois sur la tombe de son enfant pour y suspendre une couronne. L'une et l'autre durent autant que sa douleur. Son modeste deuil n'en demande pas davantage. » Les classes les plus aisées convertissent ces croix de bois en fer, qu'elles entourent et protègent de différentes manières. Voici déjà la prétention d'une durée de plusieurs années. Mais ces croix de fer aussi finissent par tomber et disparaître. Voilà pourquoi les riches ont conçu l'idée d'élever des monuments de pierre qui survivent à plusieurs générations et qu'on peut relever de leurs ruines. Est-ce le monument qui demande et obtient la vénération? Non, c'est la cendre qu'il couvre. Il ne représente donc pas un souvenir, mais une personne. Il n'appartient pas au passé, mais au présent. Ce n'est pas dans le monument, mais dans la terre que l'imagination cherche et retrouve un mort chéri. C'est autour de cette terre que se réunissent les amis, les parents. Il est donc bien naturel qu'ils demandent le droit d'en exclure ceux qui ont été hostiles ou étrangers à ce mort. Selon moi, madame, mon client donnerait une grande preuve de modération s'il se contentait du remboursement de la somme dont il a doté l'Église. Rien ne saura jamais le dédommager du mal que vous avez fait à tous les membres de sa famille, puisque vous les avez privés du bonheur douloureux de pleurer sur les tombes de leur père et de l'espoir de dormir un jour à leur côté. « Je ne me repens pas de ce que j'ai fait, » répondit Charlotte. « L'Église rendra le don qu'elle a reçu. Je me charge de l'en dédommager. C'est donc une affaire terminée. Permettez-moi seulement d'ajouter que vos arguments ne m'ont point convaincue. La pensée qui se fonde sur une égalité parfaite, du moins après la mort, me paraît plus juste et plus consolante que celle qui perpétue les individualités et les distinctions sociales, même au-delà de la tombe. N'est-ce pas là aussi votre avis ? » continua-t-elle en s'adressant à l'architecte. Je ne me crois pas capable de décider une pareille question, répondit l'artiste. Mais puisque vous l'exigez, madame, je vous dirai l'opinion qui m'a été suggérée à ce sujet par mes sentiments et par mon art. On nous a privés de l'avantage inappréciable de renfermer les cendres des objets de nos regrets dans des urnes cinéraires que nous pouvions presser sur notre cœur. Nous ne sommes pas assez riches pour embaumer leurs restes et les exposer, magnifiquement parés, dans de superbes sarcophages. Et nous sommes devenus si nombreux que nos églises ne sauraient plus contenir tous nos morts. Il faut donc nécessairement leur creuser des fosses en plein air. Dans un pareil état de choses, je me vois forcé d'approuver complètement votre réforme. Oui, madame, faire dormir ensemble tous les membres d'une même commune, c'est rapprocher ce qui doit être uni. Et puisque nous sommes réduits à déposer nos morts dans la terre, il est juste et naturel de ne point la hérisser de tertres disgracieux. Au reste, en étendant sur tous une seule et même couverture, elle devient plus légère pour chacun. Ainsi, dit Ottilie, tout sera terminé pour nous, sans que nous ayons laissé une marque, un signe qui puisse aller au-devant de la mémoire pour lui rappeler que nous avons été. Non, non, répondit vivement l'architecte, ce n'est pas au désir de perpétuer le souvenir de notre existence, mais à la place où nous avons cessé d'être qu'il faudrait renoncer. L'architecture, la sculpture, la plupart des arts, enfin, ont besoin que l'homme leur demande une marque durable de ce qu'il a été. Pourquoi donc les placer au hasard dans des lieux exposés à toutes les intempéries des saisons? Tandis qu'il serait possible, facile même, de les réunir dans des monuments spéciaux et de leur donner ainsi plus de noblesse et de durée. Depuis que les grands ne jouissent plus du privilège de faire déposer leurs restes dans les églises, ils s'y font élever des monuments. Que cet exemple nous éclaire, enfin. Il y a mille et mille formes pour ennoblir un édifice consacré à de pareils souvenirs. Puisque l'imagination des artistes est si riche, dit Charlotte, vous devriez bien m'apprendre comment ils pourraient faire autre chose que des urnes, des obélisques et des colonnes. Quant à moi, je n'ai jamais vu, au milieu des mille et mille formes dont vous venez de me parler, que mille et mille répétitions de ces trois types. Cette uniformité désespérante existe chez nous, madame, mais elle est loin d'être universelle. Je conviens, au reste, qu'il est fort difficile de rendre un sentiment grave d'une manière gracieuse et d'exprimer agréablement la tristesse. Je possède une assez jolie collection de dessins représentant les ornements funéraires des genres les plus opposés. Mais il me semble que le plus beau de tous sera toujours l'image de l'homme, dont on veut perpétuer le souvenir. Elle seule donne une idée juste de ce qu'il a été, et devient un texte inépuisable pour les notes et les commentaires les plus variés. Il est vrai qu'elle ne saurait remplir ces conditions que si elle a été faite à l'époque la plus favorable de la vie de celui qu'elle représente, ce qui arrive fort rarement, car on ne songe point à reproduire des formes encore vivantes. Quand on a moulé la tête d'un cadavre et posé un pareil marbre sur un piédestal, on ose lui donner le nom de buste. Hélas, où sont-ils, les artistes capables de rendre le cachet de la vie aux empreintes de la forme que la mort a frappée? Vous défendez mes opinions sans le vouloir, et sans le savoir peut-être, dit Charlotte. L'image de l'homme est indépendante du lieu où on la place. Partout où elle est pour elle-même. Il serait donc impossible de la réduire à orner des tombes véritables, c'est-à-dire le coin de terre dans lequel se décompose l'être qu'elle représente. Faut-il vous dire ma pensée tout entière à ce sujet? Les bustes et les statues, considérés comme monuments funéraires, ont quelque chose qui me répugne. J'y vois un reproche perpétuel qui, en nous rappelant ce qui n'est plus, nous accuse de ne pas assez honorer ce qui est. Et comment pourrait-on, en effet, ne pas rougir de soi-même quand nous songeons au grand nombre de personnes que nous avons vues et connues et dont nous avons fait si peu de cas? Combien de fois n'avons-nous pas rencontré sur notre route des êtres spirituels sans nous apercevoir de leur esprit? Des savants sans utiliser leur science, des voyageurs sans profiter de leurs récits, des cœurs aimants sans chercher à mériter leur affection. Cette vérité ne s'applique pas seulement aux individus que nous avons vus passer, non, elle est l'exacte mesure de la conduite des familles envers leurs plus dignes parents, des cités envers leurs plus estimables habitants, des peuples envers leurs meilleurs princes, des nations envers leurs plus grands citoyens. J'ai entendu plusieurs fois demander pourquoi on louait les morts sans restriction, tandis qu'un peu de blâme se mêle toujours au bien qu'on dit des vivants. Et alors, des hommes sages et francs répondaient qu'on agissait ainsi parce qu'on n'avait rien à craindre des morts et qu'on était toujours exposé à rencontrer, dans les vivants, un rival sur la route que l'on suivait soi-même. En faut-il davantage pour prouver que notre sollicitude à entretenir des rapports vivants entre nous et ceux qui ne sont plus ne découle point d'une abnégation grave et sacrée de nous-mêmes, mais d'un égoïsme railleur. Seconde partie, chapitre 2. Excité par la conversation de la veille, on visita, dès le lendemain matin, le cimetière, et l'architecte donna plus d'un heureux conseil pour embellir ce lieu. L'église, qui déjà avait attiré son attention, devait également devenir l'objet de ses soins. Cet édifice, d'un style éminemment allemand, existait depuis plusieurs siècles. Il était facile de reconnaître la manière et le génie de l'architecte, qui, dans la même contrée, avait construit un magnifique monastère. Malgré les changements intérieurs rendus indispensables par les exigences du culte protestant, l'ensemble du temple avait conservé une partie de son ancien cachet de majesté calme et imposante. L'architecte sollicita et obtint sans peine de Charlotte la somme nécessaire pour restaurer cette église dans le style antique et pour la mettre en harmonie avec les réformes qu'avait subies le cimetière dont elle était entourée. Assez adroit pour faire beaucoup de choses par lui-même, il se fit seconder par les ouvriers que la suspension de la construction de la maison d'été avait laissée sans ouvrage et qu'on lui permit de garder pour achever sa pieuse entreprise. En examinant cet édifice et ses dépendances, il découvrit, à sa grande satisfaction, une chapelle latérale d'un style remarquable et décorée par des ornements d'un travail exquis. Ce lieu renfermait une foule d'objets peints ou sculptés, à l'aide desquels le catholicisme célèbre et désigne spécialement la fête de chacun de ses saints. Entrevoyant la possibilité de faire de ce lieu un monument dans le goût artistique des siècles passés, le jeune architecte se promit d'orner la partie vide des murailles de peintures à fresques, car il n'était pas novice dans ce bel art. Mais pour l'instant, il jugea à propos de garder le silence sur ses intentions. Les dames l'avaient déjà prié plusieurs fois de leur montrer ses copies et ses projets de monuments funéraires, et il se décida à mettre sous leurs yeux les portefeuilles qui contenaient ses dessins. Pendant qu'il les leur faisait examiner, la conversation tomba naturellement sur les tombeaux des anciens peuples du Nord, ce qui l'autorisa à produire, dès le lendemain, sa collection d'armes et autres antiquités trouvées dans ces tombeaux. Tous ces objets étaient fixés sur des planches couvertes de draps, et avec tant d'art et d'élégance qu'au premier abord on aurait pu les prendre pour des cartons d'un marchand de nouveautés. La solitude profonde dans laquelle les dames vivaient leur rendait une distraction nécessaire, et comme il s'était décidé une fois à leur montrer ses trésors, il arriva presque chaque soir avec une curiosité nouvelle. Ces curiosités étaient presque toutes d'origine germaine et se composaient spécialement de bractéates, de monnaies, de sceaux et autres objets semblables. Ça et là seulement, il y avait quelques modèles des premiers essais de l'imprimerie et de la gravure sur bois et sur cuivre. Si l'examen de cette collection et les souvenirs du passé qu'elle suggérait occupait agréablement les soirées des dames, elle jouissait pendant le jour du plaisir plus grand encore de voir l'église reculer, pour ainsi dire, vers ce même passé sous l'influence magique de l'architecte. Aussi était-elle souvent tentée de lui demander si elle ne vivait pas, en effet, à une autre époque, et si les mœurs, les habitudes et les croyances qu'elle voyait se dérouler, s'agiter et vivre autour d'elle n'était pas une illusion prophétique, un rêve de l'avenir. Un dernier portefeuille contenant des personnages dessinés au trait seulement et dont le jeune artiste tournait chaque soir quelques feuillets acheva de les plonger toujours plus avant dans cette disposition d'esprit. Ces divers personnages, calqués sur les originaux, avaient conservé leur caractère d'antiquité, de noblesse et de pureté. L'amour et la résignation, une douce sociabilité, une pieuse vénération pour l'être invisible qui est au-dessus de nous, respiraient sur tous ces visages, se manifestaient dans chaque pose, dans chaque mouvement. Le vieillard à la tête chauve et l'enfant à la riche chevelure bouclée, l'adolescent courageux et l'homme grave et réfléchi, les saints au corps transfiguré et les anges planant dans les nuages, tous enfin semblaient jouir du même bonheur, parce que tous étaient sous l'empire de la même satisfaction innocente, de la même espérance, pieuse et calme. Les actions les plus vulgaires de ces personnages paraissaient se rapporter à la vie céleste, et une offrande en l'honneur de la divinité semblait découler d'elle-même de la nature de ces êtres si saintement sublimes. La plupart d'entre nous lèvent leurs regards vers de semblables régions comme vers un paradis perdu. Ottilie seule s'y sentait dans sa sphère et au milieu de créatures semblables à elle. L'architecte promit de décorer la chapelle de peinture d'après ses esquisses, afin de perpétuer son souvenir dans un lieu où il avait été si heureux et que bientôt il serait forcé de quitter. Sur ce dernier point, il s'exprima avec une émotion visible, car tout lui prouvait qu'il ne jouissait que momentanément d'une aussi aimable société. Au reste, si les jours offraient peu d'événements remarquables, ils fournissaient de nombreux sujets pour de graves entretiens. Nous profiterons de ce moment pour signaler ici les extraits de ces conversations que nous avons trouvées dans les feuilles du journal d'Ottilie. Nous ne croyons pouvoir mieux préparer nos lecteurs à ce passage qu'en leur communiquant la comparaison que ces gracieuses feuilles nous ont suggérée. En Angleterre, tous les cordages de la marine royale sont traversés par un fil rouge qu'on ne saurait faire disparaître sans détruire le travail du cordier qui ne les a enlacés ainsi que pour prouver à tout le monde que ces cordages appartiennent à la couronne de la Grande-Bretagne. C'est ainsi qu'à travers le journal d'Ottilie règne le fil d'un tendre penchant qui unit entre elles les observations et les sentences et fait de leur ensemble un tout qui appartient spécialement à cette jeune fille. Nous espérons que les extraits de ce journal, que nous citerons à plusieurs reprises, suffiront pour justifier notre comparaison. Extrait du journal d'Ottilie. Toutes les fois que la pensée de l'homme dépasse la vie d'ici-bas, il ne saurait rien espérer de plus doux que de dormir auprès des personnes qu'il a aimées. Comme elle est chaleureuse, comme elle part sincèrement du cœur, cette phrase si simple « Aller rejoindre les siens ». Il y a plus d'une manière de perpétuer le souvenir d'une personne morte ou absente. La meilleure de toutes est, sans contredit, le portrait. Lors même qu'il ne serait pas parfaitement ressemblant, il charme et attire, et l'on aime à s'entretenir avec lui, comme on aime parfois à discuter avec un ami, car alors seulement on sent distinctement qu'on est à deux et qu'il serait impossible de se séparer. Combien de fois l'ami présent n'est-il pour nous autre chose qu'un portrait? Il ne nous parle pas, il ne s'occupe pas de nous, mais nous nous occupons de lui en nous abandonnant au plaisir de le regarder. Nous sentons ce qu'il est pour nous, et souvent notre affection augmente sans qu'il ait contribué à ce résultat plus que n'aurait pu le faire son portrait. On n'est jamais content du portrait d'une personne qu'on aime. Voilà ce qui me fait plaindre sincèrement les peintres de portraits. On leur demande l'impossible. On veut qu'ils représentent la personne non telle qu'ils la voient, ou qu'elle est en effet, mais telle que l'exige la nature de ses rapports avec les individus qui regardent cette représentation, et qui y cherchent, non la vérité, mais la justification de leur affection ou de leur haine. Il est donc bien naturel que les peintres de portraits finissent par devenir indifférents, capricieux, opiniâtres, et que par conséquent, un bon portrait de l'être qui nous est le plus cher au monde est presque une impossibilité. La collection d'armes et d'autres objets trouvés dans les tombes antiques que fermaient d'immenses blocs de rochers et que l'architecte nous a montrés n'est à mes yeux qu'une preuve de la futilité des efforts humains pour la conservation de notre individualité après la mort. Quelle n'est pas la force de l'esprit de contradiction, et qui de nous peut se flatter d'en être exempt, puisque ce sage architecte, après avoir fouillé lui-même plusieurs de ses tombes, où il n'a pu trouver que des insignes indépendants de la personne du mort, n'en continue pas moins à s'occuper de monuments funéraires. Mais pourquoi nous juger si sévèrement? Ne pouvons, ne devons-nous donc travailler que pour l'éternité? ne nous habillons-nous pas le matin pour nous déshabiller le soir? Ne nous mettons-nous pas en voyage avec l'espoir de revenir au lieu du départ? Pourquoi ne souhaiterions-nous pas de reposer auprès des nôtres, quand ce ne serait que pour un siècle ou deux? Les pierres mortuaires, usées par les genoux des fidèles, les églises dont les voûtes se sont écroulées sur ces lugubres monuments, nous montrent, pour ainsi dire, une seconde époque de la vie de souvenir que nous aimons à faire à nos morts. Et en général, cette vie est plus longue que la vie d'action. Mais elle aussi a un terme, et finit par s'évanouir. Pourquoi le temps, dont l'inflexible tyrannie est toujours sans pitié pour l'homme, serait-il plus indulgent pour l'œuvre de ses mains ou de son intelligence? Chapitre 3. Il est si agréable de s'occuper d'une chose qu'on ne sait qu'à demi, que nous ne devrions jamais nous permettre de rire aux dépens de l'amateur qui s'occupe sérieusement d'un art qu'il ne possédera jamais, ni blâmer l'artiste qui dépasse les limites de l'art où son talent a acquis droit de cité, pour s'égarer dans les champs voisins où il est étranger. C'est avec cette disposition bienveillante que nous allons juger les peintures dont l'architecte se disposa à orner la voûte et les places vides des murailles de la chapelle. Ses couleurs étaient prêtes, ses mesures prises, ses cartons dessinés. Trop modeste pour prétendre à la création, il se borna à reproduire avec goût et intelligence les délicieuses figures et les ornements antiques dont il possédait les esquisses et les plans. L'échafaudage était dressé et son travail s'avançait rapidement, car les fréquentes visites de Charlotte et d'Ottilie doublaient son courage et enflammaient son imagination. De leur côté, les dames ne pouvaient se lasser d'admirer ces vivantes figures d'anges dont les draperies savamment éclairées se détachaient si bien de l'azur du ciel et qui, par leur cachet de piété simple et calme, invitaient à une douce méditation. Un jour, l'artiste avait fait monter Ottilie près de lui sur son échafaudage. La vue d'objets commodément étalés et dont elle avait appris à se servir à la pension, éveilla tout à coup chez cette jeune fille un sentiment artistique dont elle n'avait jamais supposé l'existence. Et, saisissant la palette et les pinceaux, elle termina très heureusement une draperie commencée. Satisfaite de voir sa nièce s'occuper ainsi, Charlotte devint plus solitaire. L'isolement était un besoin pour elle, car là seulement il lui était possible de se livrer aux tristes pensées qu'elle ne pouvait communiquer à personne. L'agitation fiévreuse et les tourments outrés que les événements les plus communs causent aux hommes vulgaires nous font sourire de pitié, mais nous nous sentons pénétrés d'un saint respect quand nous voyons devant nous un noble cœur où le destin mûrit une de ses plus mystérieuses combinaisons, sans lui permettre d'en hâter le développement et d'aller ainsi au-devant du bien ou du mal qui doit en résulter pour lui et pour les autres. Édouard avait répondu à la lettre de sa femme, avec calme, avec résignation, mais sans abandon, sans amour surtout. Quelques jours après avoir écrit cette lettre, il disparut de sa retraite et cacha si bien les traces de la route qu'il avait prise qu'il fut impossible de les découvrir. La voix de la publicité, celle des journaux, apprit enfin à Charlotte que son mari était rentré dans la carrière militaire, car son nom figurait avec honneur dans le récit d'une bataille où il s'était distingué. La pauvre femme osa à peine se féliciter du bonheur avec lequel il venait d'échapper à tant de dangers, car elle savait qu'il en chercherait de nouveau, non par amour pour la gloire, mais parce qu'il préférait la mort à la nécessité de renouer ses anciennes relations avec sa femme. Plus elle s'affermissait dans cette conviction, si douloureuse pour elle, plus elle s'efforçait de la cacher au fond de son âme. Ignorant toujours le parti extrême que le baron avait pris, et heureuse de cette ignorance, Ottilie s'était passionnée pour la peinture. Charlotte lui avait accordé avec plaisir la permission de travailler avec l'architecte au plafond de la chapelle, et le ciel que représentait ce plafond se peupla rapidement de gracieux habitants. Devenus plus habiles par l'exercice et par l'émulation, les deux artistes faisaient des progrès visibles à mesure qu'ils avançaient dans leur travail. Les figures, surtout, dont l'architecte s'était spécialement chargé, avaient une ressemblance plus ou moins grande avec Ottilie. Sa présence constante impressionnait le jeune artiste, au point qu'il ne pouvait plus rêver d'autre physionomie que celle de cette belle enfant. Un seul ange restait encore à faire. Il devait être le plus beau, et il le devint en effet. En le voyant, on eût dit qu'Ottilie planait dans les sphères célestes. L'architecte s'était promis d'abord de laisser les murs tels qu'ils étaient, en les couvrant toutefois d'une couche de brun clair sur laquelle les gracieuses colonnes et les riches boiseries sculptées devaient ressortir naturellement par leur ton plus foncé. Mais, ainsi que cela arrive presque toujours en pareil cas, il modifia son premier plan et décora ses places de corbeilles, de guirlandes et de couronnes de fruits et de fleurs. La représentation de ces dons précieux de la nature unissait, pour ainsi dire, le ciel à la terre. Dans ce dernier travail, Ottilie surpassa presque son maître. Les jardins lui fournissaient les modèles les plus riches et les plus variés, et quoiqu'ils dotassent très richement ses corbeilles et ses couronnes, les peintures se trouvèrent achevées plus tôt qu'ils ne l'auraient désiré tous deux. Tout était terminé enfin, mais les bois des échafaudages et autres objets dont on s'était servi pour peindre gisaient pêle-mêle sur les pavés, cassés et bariolés de couleurs. Et l'architecte pria les deux dames de ne revenir dans la chapelle que lorsqu'il l'aurait fait débarrasser et nettoyer. Pendant une belle soirée, il vint les prier de s'y rendre, demanda la permission de ne pas les accompagner et s'éloigna aussitôt. Quelle que soit la surprise qui nous est réservée, dit Charlotte, je ne me sens pas disposée à en profiter en ce moment. Va voir, seul, ce qu'il a fait, et tu m'en rendras compte. Je suis sûre que tu vas jouir d'un coup d'œil agréable. Mais je veux le juger d'abord par ce que tu m'en diras. Je verrai ensuite avec mes propres yeux. » Ottilie, qui savait que sa tante évitait avec soin tout ce qui pouvait l'impressionner ou la surprendre, partit aussitôt et se détourna plusieurs fois dans l'espoir de voir l'architecte. Mais il ne parut point. L'église, qui était achevée depuis longtemps, n'avait rien de neuf à lui offrir. Elle s'avança donc vers la porte de la chapelle, qui, quoique surchargée d'airain, s'ouvrit sans effort. Et l'aspect de ce lieu, qu'elle croyait connaître parfaitement, lui causa un étonnement mêlé d'admiration. À travers la haute et unique fenêtre qui l'éclairait, tombait un jour grave et bizarrement nuancé. Les vitraux étaient peints, ce qui donnait à l'ensemble un ton étrange et disposait l'âme à des impressions mélancoliques. Les pavés cassés avaient été remplacés par des briques de formes différentes et unies entre elles par une couche de plâtre, de manière à former des dessins allégoriques. Ce double ornement, que l'architecte avait fait préparer et exécuter en secret, rehaussait la beauté des peintures. Les stalles antiques, savamment sculptées, qu'on avait trouvées parmi les bois et les meubles qui encombraient cette chapelle, étaient symétriquement rangées contre la muraille et offraient de solennels lieux de repos. Ottilie contemplait avec plaisir ces détails connus, qui se présentait devant elle comme un tout inconnu. Elle fut s'asseoir dans une des stalles, et ses regards errèrent autour d'elle, sans se fixer sur aucun objet. Il lui semblait qu'elle était et qu'elle n'était point, qu'elle sentait et qu'elle ne sentait point, que tout disparaissait devant elle et qu'elle disparaissait devant tout. Lorsque le soleil, qui avait fait briller les vitraux peints d'un éclat singulier, disparut, Ottilie se réveilla tout à coup de l'inconcevable rêverie dans laquelle elle s'était abîmée et retourna en hâte au château. Son émotion était d'autant plus vive que ce jour était la veille de l'anniversaire de la naissance d'Édouard, fête qu'elle s'était flattée de célébrer dans une autre disposition d'esprit et dans une situation bien différente. Les magnifiques fleurs d'automne brillaient encore sur leurs tiges. Le tournesol levait toujours vers les cieux sa tête altière, et les marguerites aux mille couleurs s'inclinaient modestement vers la terre. Si une faible partie de ce luxe de la nature avait été cueillie, ce n'était pas pour tresser des couronnes à Édouard, mais pour servir de modèle aux peintures qui décoraient un lieu destiné à recevoir des monuments funéraires. La tristesse et la mélancolie de cette soirée rappelaient cruellement à la jeune fille la joie bruyante que le baron avait fait régner le jour de l'anniversaire de sa naissance à elle. Le feu d'artifice, surtout, pétillait encore à ses oreilles et brillait à ses yeux. Illusion pleine de charme et de désespoir, car elle était seule. Son bras ne se reposait plus sur celui de son ami. Il ne lui restait pas même le vague espoir de retrouver tôt ou tard en lui une consolation, un appui. Extrait du journal d'Ottilie. Il faut que je signale ici une observation de notre jeune architecte, car elle m'a paru très juste. Lorsque nous examinons de près la destinée de l'artiste et même celle de l'artisan, nous reconnaissons qu'il n'est pas permis à l'homme de s'approprier un objet quelconque, pas même celui qui semble lui appartenir de droit, puisqu'il émane de lui. Ses œuvres l'abandonnent, comme l'oiseau abandonne le nid où il est éclos. Sous ce rapport, la destinée de l'architecte est la plus cruelle de toutes. Il consacre une partie de son existence et toutes les ressources de son génie à construire et à décorer un édifice. Mais, dès qu'il est achevé, il en est banni. C'est à lui que les rois doivent la magnificence et la pompe imposante des salles de leur palais. Et cependant, ils ne lui permettent pas de jouir de l'effet merveilleux de son œuvre. Dans les temples, une limite infranchissable l'exile du sanctuaire dont la beauté imposante est son ouvrage, et il lui est défendu de monter les marches qu'il a posées, de même que l'orfèvre ne peut adorer que de loin l'ostensoir qu'il a fabriqué de ses mains. En remettant aux riches la clé d'un palais terminé, il leur donne à jamais la jouissance exclusive de tout ce qu'il a pu inventer, pour rendre la vie de tous les jours commode, agréable et brillante. L'art ne doit-il pas s'éloigner de l'artiste, puisque ses œuvres ne réagissent plus sur lui et se détachent de lui comme la fille richement dotée se détache du père à qui elle doit cette dot? Ces réflexions nous expliquent pourquoi l'art avait plus de puissance lorsqu'il était presque entièrement consacré au public, c'est-à-dire aux choses qui continuent à appartenir à l'artiste, parce qu'elles appartiennent à tout le monde. Les anciens peuples du Nord se sont formés, sur la vie au-delà de la tombe, des idées imposantes et graves. On peut même dire qu'elles ont quelque chose d'effrayant. Ils se figuraient leurs ancêtres réunis dans d'immenses cavernes, assis sur des trônes et plongés dans de muets entretiens, puisqu'il ne se parlait que de la pensée. Et lorsqu'un nouveau venu, digne d'eux par sa valeur et par ses vertus, se présentaient dans cette majestueuse réunion, tous se levaient et s'inclinaient devant lui. Hier, j'étais assise dans la chapelle, dans une stalle sculptée, et en face et près de moi, je voyais beaucoup de stalles semblables, mais vides. Alors les idées de ces anciens peuples me sont revenues à la mémoire, et je les ai trouvées douces et bienfaisantes. Pourquoi, me suis-je dit, ne peux-tu rester assise ici, silencieuse et pensive, jusqu'à ce qu'il arrive le bien-aimé devant lequel tu te lèveras avec joie pour lui assigner une place à tes côtés. Les vitraux peints font du jour un crépuscule solennel, mais il faudrait inventer une lampe permanente afin que la nuit ne fût pas aussi noire. Oui, l'homme a beau faire, il ne peut se concevoir que voyant, et je crois qu'il ne rêve pendant son sommeil que pour ne pas cesser de voir. Peut-être aussi portons-nous en nous-mêmes une lumière cachée et prédestinée à sortir un jour de ces profondeurs mystérieuses afin de rendre toute autre clarté inutile. L'année touche à sa fin, le vent passe sur le chaume et ne trouve plus de moisson à faire ondoyer. Les baies rouges de ces jolis arbres au feuillage dentelé semble seul vouloir nous retracer quelques images riantes de la saison passée, comme les coups mesurés du batteur en grange nous rappellent que dans les épis dorés tombés sous la faucille du moissonneur, il y avait un principe de vie et de nourriture. Chapitre 4. Lorsqu'il ne fut plus possible à cacher à Ottilie qu'Édouard était allé braver les chances incalculables de la guerre, elle en fut d'autant plus vivement affectée que, depuis longtemps déjà, elle n'éprouvait plus que des sensations qui lui rappelaient la fragilité des choses humaines. Heureusement, notre nature ne peut accepter qu'une certaine dose de malheur. Tout ce qui dépasse cette dose l'anéantit ou ne l'atteint point. Oui, il est des positions où la crainte et l'espérance ne font plus qu'un même sentiment, morne et silencieux, qu'on pourrait presque appeler de l'insensibilité. S'il n'en était pas ainsi, comment pourrions-nous continuer à vivre de la vie vulgaire et suivre le cours de nos habitudes et nos travaux, tout en sachant que des dangers sans cesse renaissants enveloppent l'objet de nos affections qui vit loin de nous. Ottilie allait, pour ainsi dire, s'abîmer dans la solitude silencieuse au milieu de laquelle elle vivait, lorsque le bon génie, qui vivait encore sur elle, introduisit au château une espèce de horde sauvage. Le désordre qu'elle y causa rappela les forces actives de la jeune fille sur les objets extérieurs et lui rendit la conscience de son être. Luciane, la brillante fille de Charlotte, avait, ainsi que nous l'avons déjà dit, quitté le pensionnat pour aller habiter avec sa grande-tante qui s'était empressée de l'introduire dans le monde élégant. Là, le désir de plaire qui l'animait devint une fascination qui captiva bientôt un jeune et riche seigneur, auquel il ne manquait, pour réunir tout ce qu'il y avait de mieux en tout genre, qu'une femme accomplie, dont tout le monde lui envierait la possession. Pour arrêter définitivement cet avantageux mariage, il fallait entrer dans des explications et des détails sans nombre et établir des relations nouvelles. Ce qui augmenta tellement la correspondance de Charlotte qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'autre chose. On savait que les jeunes fiancés devaient venir voir leur mère, mais l'époque de cette visite n'était pas fixée. Ottilie se borna donc à faire lentement et par degrés les préparatifs de cette réception. Rien n'était terminé encore lorsque le tourbillon s'abattit à l'improviste sur le château. Des voitures découvertes amenèrent d'abord un monde de femmes de chambre et de valets. Des brancards chargés de caisses et de cartons suivaient de près cette bruyante avant-garde, à laquelle succéda immédiatement le gros de l'armée, c'est-à-dire la grande tante, Luciane, plusieurs de ses jeunes amis du pensionnat et un nombre considérable de gentilshommes des plus à la mode. Le prétendu s'était également entouré d'un cortège d'amis de son âge et de son rang. Une pluie battante survenue tout à coup augmenta le désordre de cette entrée tumultueuse et imprévue. Les bagages gisaient pêle-mêle dans les vestibules et les antichambres. Il n'y avait pas assez de bras pour les porter, pas assez de voix pour dire à qui appartenait tel ou tel mâle, caisse ou porte-manteau. Les hôtes encombraient les salons et chacun voulait être logé le premier. Ottilie, seule, resta calme et tranquille. Son activité impassible domina la confusion générale. En peu d'heures, tout le monde fut convenablement casé. Et s'il était impossible de servir tant de personnes à la fois, on laissait du moins à chacun la liberté de se servir soi-même. La route, quoique courte, avait été fatigante. Les voyageurs avaient besoin de repos. Et le futur désirait passer, du moins les premières journées, dans la société intime de sa belle-mère, afin de lui parler de son amour pour sa fille et de son désir de la rendre heureuse. Luciane en avait décidé autrement. Son prétendu avait amené plusieurs magnifiques chevaux de selle qu'elle ne connaissait pas encore, et elle les essaya à l'instant, en dépit de la tempête et de la pluie. Il lui semblait que l'on n'était au monde que pour se mouiller et pour se sécher. Les constructions et les promenades nouvelles dans les environs du château, et dont on lui avait parlé souvent, piquaient également sa curiosité. Elle voulait tout voir, tout examiner dans le plus court délai possible. Sans égard pour ses vêtements ou pour ses chaussures, elle visitait à pied les lieux où on ne pouvait se rendre ni à cheval ni en voiture. Aussi les femmes de chambre étaient-elles forcées de consacrer non seulement les journées, mais encore une partie des nuits à décrotter, laver et repasser. Quand il ne lui resta plus rien à voir dans la contrée, elle se mit à faire des visites dans le voisinage, et comme elle allait toujours au galop, les limites de ce voisinage s'étendaient fort loin. On s'empressa de venir la voir à son tour, ce qui acheva d'encombrer le château. Parfois, ces visites arrivaient pendant que Luciane était absente. Pour remédier à cet inconvénient, elle fixa des jours de réception, et dans ces jours, une foule aussi brillante que nombreuse accourait de tous côtés. Pendant ce temps, Charlotte réglait avec sa tante et le chargé d'affaires du futur les intérêts du jeune couple. Ottilie entretenait, par son esprit d'ordre et sa bonté, le zèle des domestiques, des chasseurs, des jardiniers, des pêcheurs et des fournisseurs de toute espèce, afin de pouvoir satisfaire aux besoins et aux caprices de cette nombreuse société. Semblable à une comète vagabonde qui traîne après elle une crinière enflammée, Luciane n'accordait de repos à personne. À peine les visiteurs les plus âgés et les plus calmes avaient-ils arrangé leur partie de jeu, qu'elle renversait les tables et forçait tout ce qui pouvait se mouvoir à prendre part aux danses et aux divertissements bruyants. Et qui aurait osé rester immobile quand une aussi séduisante jeune fille exigeait le mouvement et l'action? Toutefois, si elle ne voyait et ne demandait jamais que son plaisir à elle, les autres trouvaient aussi leur compte dans son humeur bruyante. Les hommes surtout. Car grâce au tact merveilleux avec lequel elle distribuait ses prévenances et ses agaceries, chacun d'eux se croyait le mieux partagé. Dominée par le besoin de plaire toujours et à tout le monde, elle n'épargna pas même les hommes d'un caractère grave ou avancés en âge, quand leur rang ou leur position sociale leur donnait quelque importance. Pour les captiver, elle avait recours à toutes sortes d'attentions délicates, tels que de célébrer leur fête de naissance ou de nom, dont elles s'étaient procuré les dates par des détours adroits. Chez elles, la malignité était, pour ainsi dire, érigée en système. Peu satisfaite d'humilier la sagesse et le mérite, en les réduisant à rendre hommage à ses extravagances, elle aimait à se jouer des hommes jeunes et étourdis, en les enchaînant à son char, au jour et à l'heure qu'elle avait fixé d'avance pour leur défaite. L'architecte avait attiré son attention, beaucoup moins par ses manières distinguées que par sa chevelure noire et bouclée, à travers laquelle il regardait avec tant d'ingénuité. Mais il continua à se tenir éloigné d'elle, répondit laconiquement à ses questions, et l'évita avec un calme si parfait qu'elle se sentit presque offensée de sa conduite. Pour l'en punir et le forcer à grossir le cortège de ses adorateurs, elle se promit de le faire le héros d'une brillante journée. Ce n'était pas seulement par manie qu'elle se faisait toujours précéder dans ses voyages par une immense quantité de malles et de caisses. Elle en avait réellement besoin pour satisfaire les nombreux caprices dont la prompte réalisation était pour elle un besoin. Jamais elle ne faisait moins de 4 toilettes par jour, et souvent même, il ne lui suffisait pas de varier ainsi les costumes que les usages du monde élégant assignent à chaque partie de la journée, elle inventait encore les déguisements les plus extraordinaires qu'elle réalisait dans les moments où on s'y attendait le moins. C'est ainsi qu'après une courte absence des salons, elle s'y glissait furtivement vêtue en paysanne, en fée, en bouquetière et même en vieille femme, car il lui était agréable d'entendre les cris d'admiration qui retentissaient de toutes parts quand elle rejetait brusquement le capuchon qui cachait son joli visage. Ses allures, naturellement gracieuses, s'accordaient toujours si bien avec les personnages qu'elle représentait qu'on ne pouvait la regarder sans se croire sous l'empire du plus charmant et du plus espiègle des farfadets. Ces sortes de déguisements lui valaient encore un autre genre de triomphe, auquel elle attachait le plus grand prix, celui de faire paraître dans tout son éclat le talent avec lequel elle exécutait des danses de caractère et des pantomimes. Un jeune cavalier de sa suite, qui s'était exercé à accompagner sur le piano ses attitudes et ses gestes par des airs analogues, savait si bien lire ses désirs dans ses yeux qu'il lui suffisait d'un coup d'œil pour deviner sa pensée. Au milieu d'une brillante soirée dansante, elle jeta sur lui un de ses regards significatifs. Il la comprit et la supplia aussitôt de surprendre la société par une représentation improvisée. Cette demande parut l'embarrasser. Elle se fit prier longtemps contre son habitude, feignit d'hésiter sur le choix du sujet et finit à l'exemple de tous les improvisateurs par demander qu'on lui en donnât un. Le jeune cavalier lui indiqua celui d'Artémise au tombeau de son mari. Luciane s'éloigna et reparut bientôt sous le costume de la royale veuve. Sa démarche était grave et imposante, une marche funèbre savamment exécutée sur le piano soutenait ses gestes et ses attitudes, et ses yeux ne quittaient point l'urne funèbre qu'elle tenait dans ses mains. 2 pages en grand deuil la suivaient, portant un grand tableau noir et un morceau de crayon blanc. Un autre cavalier de sa suite, qui était également dans le secret, poussa l'architecte au milieu du cercle qui s'était formé autour d'Artémise. Mais il avait eu soin de l'avertir qu'il ne pouvait se dispenser de jouer dans cette scène le rôle qui lui appartenait de droit, c'est-à-dire de dessiner sous les yeux de la reine un mausolée digne de sa douleur et du mort qui en était l'objet. Cette exigence lui fut d'autant plus désagréable que son costume noir, il est vrai, mais étroit et à la mode, contrastait d'une manière bizarre avec la couronne, les franges, les glands de jais, les voiles de crêpe et les draperies de velours de la reine. Prenant toutefois son parti en homme d'esprit et de bonne compagnie, il s'avança gravement vers le tableau, prit le crayon qu'un des pages lui présenta et dessina un mausolée imposant et beau, mais qui semblait plutôt appartenir à un prince lombard qu'à un roi de Carré. Tout entier à son travail, il ne fit aucune attention à la reine, et ce ne fut qu'après avoir donné le dernier coup de crayon qu'il se tourna vers elle, pour lui annoncer, par une respectueuse inclination, qu'il avait accompli ses ordres. Persuadé que son rôle était joué, il allait se retirer. Mais Luciane lui montra l'urne qu'elle tenait à la main, en cherchant à lui faire comprendre qu'elle voulait la voir reproduite sur le haut du monument. L'architecte n'obéit qu'à regret et d'un air contrarié, car ce nouvel ornement ne s'accordait nullement avec le caractère de son esquisse. De son côté, la reine était mécontente, presque humiliée. Elle s'était flattée qu'il tracerait en hâte quelque chose de semblable à un tombeau pour ne s'occuper que d'elle et lui témoigner ainsi qu'il était sensible à la préférence marquée qu'elle venait de lui accorder sur tous les autres jeunes hommes de la société, en le choisissant pour jouer cette pantomime avec elle. Stimulée par sa vanité blessée, elle chercha plusieurs fois à établir des rapports directs avec lui, tantôt en admirant son travail avec enthousiasme et tantôt en l'engageant indirectement à la consoler en partageant sa douleur. Malgré ses avances, l'architecte resta immobile et froid, ce qui la mit dans la nécessité d'occuper seuls les spectateurs par l'expression de son désespoir. Plusieurs fois déjà, elle avait pressé l'urne sur son cœur, levé ses regards vers le ciel et fait plusieurs autres gestes semblables. En cherchant à les varier, elle les exagéra au point qu'elle finit par ressembler beaucoup plus à la matrone d'Éphèse qu'à la royale veuve de Carré. Cette scène s'était tellement prolongée que le pianiste ne savait plus comment varier ses airs de deuil. Aussi passa-t-il tout à coup à des mélodies gaies et bruyantes qui forcèrent Luciane à donner un autre caractère à ses attitudes, au moment même où elle allait exprimer à l'artiste sa larmoyante reconnaissance. On se pressa autour d'elle en l'accablant d'éloges et de remerciements, et l'architecte eut sa part du succès, car son dessin excita une admiration générale et sincère. Le futur, surtout, en fut très satisfait et le lui témoigna en termes flatteurs. « Il est fâcheux, continua-t-il, que dans peu de jours il ne restera plus rien de ce beau dessin. Je vais le faire porter dans ma chambre, afin d'en jouir du moins aussi longtemps que possible. » Si vous le désirez, répondit l'architecte, je vous montrerai une collection de monuments funéraires, dont cette esquisse n'est qu'une réminiscence très imparfaite. Ottilie, qui se trouvait près d'eux, s'empressa de lui dire qu'il ne pourrait jamais montrer ses chefs-d'œuvre à un connaisseur plus capable de les apprécier. Luciane accourut en ce moment et demanda quel était le sujet de leur conversation. Nous parlions d'une collection de dessins, lui dit son futur, que cet aimable artiste m'a promis de me montrer incessamment. Qu'il l'apporte tout de suite, s'écria Luciane, et saisissant les deux mains de l'artiste, elle ajouta d'une voix caressante, n'est-il pas vrai, monsieur, que vous l'apporterez tout de suite? Il me semble, madame, que cet instant est peu convenable pour un pareil examen. « Quoi, monsieur ? » dit-elle d'un ton ironiquement impérieux. « Vous oseriez résister aux ordres de votre reine ?» Puis elle se remit à le prier et à lui prodiguer les plus gracieuses flatteries. « N'y mettez pas d'obstination, » murmura Ottilie en se penchant à l'oreille de l'artiste, « qui s'éloigna aussitôt après avoir fait une inclination respectueuse, mais qui ne promettait rien. Dès qu'il fut sorti, Luciane se mit à jouer à travers le salon avec un grand lévrier. Le pauvre animal se réfugia auprès de Charlotte. La jeune étourdie le poursuivit avec tant d'ardeur qu'elle manqua de renverser sa mère. « Ah, que je suis malheureuse de ne pas avoir amené mon singe !» s'écria-t-elle tout à coup. « J'en avais l'intention. On m'en a détourné pour flatter la paresse de mes gens. Mais je veux qu'on aille le chercher dès demain. Si j'avais seulement son portrait... Oh, je le ferai faire, et son image du moins ne me quittera jamais. Elle me consolera quand je ne pourrai pas avoir l'original près de moi. » « Je puis dès ce moment t'offrir cette consolation, » dit Charlotte, « car j'ai dans ma bibliothèque un grand nombre de gravures représentant toutes les variétés de singes. » Luciane poussa un cri de joie, et un domestique apporta l'in-folio qu'elle se mit aussitôt à feuilleter avec enthousiasme, trouvant à chacune de ces hideuses créatures, qu'on regarde à juste titre comme la plus laide parodie de l'homme, une ressemblance frappante avec les diverses personnes de sa connaissance. « Regardez celui-ci, » dit-elle, « n'est-ce pas le véritable portrait de mon oncle ? Et cet autre ? Ah, c'est le célèbre marchand de nouveautés, monsieur . Voici le curé S. Et celui-là, ne reconnaissez-vous pas, monsieur ? Monsieur... Chose ! En vérité, les singes sont les vrais incroyables de la bonne société, et je ne sais de quel droit on se permet de les en exclure. » Et c'était au milieu d'une bonne société qu'elle parlait ainsi, sans supposer la possibilité qu'elle pouvait blesser quelqu'un. On avait commencé par tant pardonner à ses grâces et à son esprit, qu'on était arrivé à tout pardonner à son impertinence. Ce genre de plaisanterie avait peu d'attrait pour le futur, qui s'entretenait dans un coin avec Ottilie sur le mérite de l'architecte, dont la jeune fille attendait le retour avec impatience, car elle espérait qu'il mettrait un terme à l'inconvenant babillage de Luciane à l'occasion des singes. À son grand étonnement, il se fit encore attendre longtemps, et lorsqu'il reparut, il se perdit dans la foule. Non seulement il n'avait point apporté ses dessins, mais il semblait avoir oublié qu'on les lui avait demandés. Ottilie l'accusa intérieurement et avec chagrin du peu de cas qu'il faisait de sa prière. Au reste, elle ne lui avait adressé cette prière que pour procurer à son futur cousin une distraction agréable. Car il était facile de voir que malgré son amour sans bornes pour Luciane, il souffrait parfois de ses extravagances. Bientôt, les singes firent place à une splendide collation à laquelle succédèrent des danses animées. Puis il y eut un moment de causerie paisible, et les jeux bruyants recommencèrent de nouveau et se prolongèrent bien avant dans la nuit. Luciane, que le pensionnat avait accoutumée à une vie réglée, s'était promptement façonnée aux allures du monde élégant et dissipé, et jamais elle ne pouvait ni se coucher ni se lever assez tard. Malgré les nombreuses occupations dont elle était surchargée, Ottilie ne négligea point son journal. Elle n'y inscrivit cependant pas des événements, mais des pensées et des maximes que nous n'osons pas lui attribuer. Il est probable qu'elle les puisa dans un livre qu'on lui avait prêté et dont elle s'appropria tout ce qui portait le cachet de son caractère, car on y retrouve toujours le fil rouge des cordages de la marine royale d'Angleterre. Extrait du journal d'Ottilie. Nous aimons à regarder dans l'avenir, parce que nous espérons que nos vœux secrets dirigeront en notre faveur les chances du hasard qui s'y agite. Nous ne trouvons presque jamais dans une société nombreuse, sans croire, vaguement du moins, que le hasard qui rapproche tant de choses y amènera quelques-uns de nos amis. On a beau vivre dans une retraite profonde, on devient tôt ou tard et sans s'y attendre créancier ou débiteur. Quand nous rencontrons une personne qui nous doit de la reconnaissance, nous nous en souvenons à l'instant. Mais nous pouvons rencontrer plus de 100 fois celles qui ont le droit d'en exiger de notre part sans nous le rappeler. La nature nous pousse à communiquer nos sensations. L'éducation nous apprend à recevoir les communications des autres pour ce qu'ils nous les donnent. Nous parlerions fort peu en société si nous savions que nous comprenons presque toujours nous-mêmes fort mal ce qui nous parle. C'est sans doute parce que nous ne comprenons jamais complètement les paroles des autres que nous les changeons toujours en les rapportant. Celui qui parle longtemps seul, sans flatter son auditoire, excite sa malveillance. Chaque parole prononcée éveille naturellement une antinomie. La contradiction est aussi nuisible au charme de la conversation que la flatterie. Une réunion n'est réellement agréable que lorsque tous ceux qui la composent s'estiment et se respectent sans se craindre. L'homme ne dessine jamais plus complètement son caractère que par ce qui lui paraît ridicule. Le ridicule n'est autre chose qu'une opposition aux convenances sociales, opposition qui s'harmonise avec nos penchants naturels d'une manière inoffensive. L'homme qui se laisse aller à ses penchants naturels rit souvent là où les autres ne voient rien de risible. C'est que, pour lui, la satisfaction intérieure domine toujours les impressions qu'il reçoit des objets extérieurs. Tout est ridicule pour l'homme raisonnable, rien ne l'est pour le sage. On reprocha un jour à un homme âgé d'adresser toujours ses hommages aux jeunes personnes. « C'est le seul moyen de se rajeunir, » répondit-il, « et qui de nous oserait prétendre que se rajeunir n'est pas ce qu'il désire le plus au monde ?» Nous nous laissons tranquillement reprocher nos défauts. Nous supportons même avec patience les châtiments et autres maux qu'ils entraînent. Mais on nous indigne, on nous désespère, quand on veut nous contraindre à nous en corriger. Il est des défauts nécessaires au bien-être des existences individuelles, et nous serions nous-mêmes peu satisfaits si nos anciens amis se débarrassaient tout à coup des bizarreries qui les caractérisent. Lorsqu'un individu se conduit d'une manière entièrement opposée à ses habitudes, on dit « il mourra bientôt ». Quels sont les travers d'esprit que nous devons plutôt chercher à cultiver qu'à déraciner en nous ? Ceux qui flattent les personnes au milieu desquelles nous vivons, au lieu de les offenser. Les passions sont des défauts et des vertus exagérées. Chaque passion est un phénix qui, au moment même où on le croit consumé, renaît de sa cendre. Les passions sont des maladies sans espoir de guérison, car les moyens qui devraient les guérir ne servent presque jamais qu'à les augmenter. Lorsque nous faisons l'aveu d'une passion qui nous domine, nous en augmentons la force, mais parfois aussi cet aveu l'affaiblit. Un juste équilibre n'est nulle part plus nécessaire et plus difficile que dans notre conduite envers un objet aimé, car nous y mettons presque toujours ou trop de confiance ou trop de réserve.